je le fais languir un peu, et il est très occupé. C'est le docteur François Marquis, interniste et chef de l'unité des soins intensifs de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Docteur Marquis, bon dimanche matin.
Bon matin.
Il y a eu des inquiétudes cette semaine, et on peut le dire, ce sont des cas très rares. Des gens qui sont réinfectés à la COVID-19. Je voyais notamment qu'on soupçonne le tout premier Américain dans l'État du Nevada qui avait développé la COVID-19 avec des symptômes bien précis. Maux de gorge, problèmes gastriques et tout ça. Il semblait avoir été guéri et le voilà qui est de retour à l'hôpital moins de 2 mois après une première infection. 4 mois après sa première infection, il y a une personne qui a obtenu également un deuxième test positif à la COVID. Est-ce qu'on doit s'en inquiéter?
Ben en fait, je pense pas qu'il faut s'en inquiéter. Ce phénomène-là est absolument connu avec toutes les maladies contagieuses. Celles qu'on attrape une fois dans sa vie, il y a toujours des gens sur Terre que leur système immunitaire a mal compris quelque chose et qui vont faire en sorte que pour cette maladie-là, ils vont pouvoir la rattraper une deuxième fois. C'est des raretés. Quand on voit ça arriver à l'hôpital, nous autres, habituellement, moi, je suis dans un milieu universitaire, on en profite pour faire de l'enseignement aux résidents puis aux externes. En fait, ce qui est réconfortant, c'est qu'à ce temps-ci du début de la pandémie, surtout si on pense à la Chine, l'Italie, l'Europe, eux, il y avait quasiment un mois et demi d'avance, sinon 2 mois d'avance sur nous autres. Et si c'était une réalité fréquente de pouvoir se réinfecter à la COVID, on n'aurait pas 3 cas sur Terre ou 4 cas, on en aurait des milliers.
Ouais.
Donc, à la base, je pense que c'est réconfortant. Mais il faut comprendre que au demeurant, il y a d'autres explications encore pour dire que c'est quelqu'un qui a eu un petit problème immunitaire. Ça, c'est le plus probable. Mais il y a aussi le fait que les tests, il existe un concept qui s'appelle un faux positif. C'est-à-dire que vous allez prendre le test allume que vous avez le COVID, mais en réalité, vous n'aviez pas le COVID. Il peut avoir eu des erreurs de manipulation, des échantillons qui se sont mélangés. Là, ça peut faire peur aux gens, mais c'est extrêmement rare. Mais est-ce que ça a pu arriver? Oui, ça a pu arriver. Donc, il y a quand même, encore une fois, des explications alternatives et on ne doit pas nécessairement sauter sur la conclusion que certains m'ont parlé, de dire « le virus mute, on va tout repasser ça ».
Non,
on n'est pas là pantoute. Là.
Alors, parce qu'il y a eu très peu de cas, vous l'avez dit, à travers le monde. Rappelez-vous, il y a peut-être un mois et demi, en Corée du Sud, qui avait été un pays qui avait stoppé l'avance de la pandémie, on l'avait cité en exemple, on était très inquiet parce qu'on voyait de ces cas récurrents, des personnes qui avaient déjà eu la COVID en février et qui l'avaient rattrapée. Et on a vu beaucoup de ce que vous venez de dire, docteur Marquis. En fait, des faux tests. C'est pas...
Oui.
La personne ne rattrapait pas, avec tout ce que ça implique, la COVID-19.
Non, c'est ça. C'est que quand on fait un test, il n'y a aucun test qui est 100% parfait. Ça, c'est la première chose qu'il faut se dire. Et c'est pour ça qu'au Québec, il y a un travail extraordinaire qui a été fait de calibrer ces tests-là pour justement qu'on connaisse les limites de nos tests. Et donc, il y a des gens qui ont des faux positifs, il y en a très peu. Il y a des gens qui ont des faux négatifs, il y en a très, très peu. Et la grosse majorité ont le bon résultat. Maintenant, si on a un faux négatif, le problème, c'est qu'on peut continuer d'être contagieux si on ne fait pas attention à la distanciation sociale, des choses comme ça. Mais le faux positif fait en sorte qu'on a été étiqueté comme ayant eu la COVID.
Ouais.
Et après, quand on l'attrape, tout le monde s'en inquiète. Mais au nombre qu'on a, honnêtement, on devrait quasiment en avoir plus que ça des faux positifs. Il y a tellement de gens sur Terre qui ont passé le test. Sérieusement, c'est pas si pire si on a juste ça comme faux positif.
Ah non, c'est vraiment, et on l'a dit, je disais que les Américains faisaient référence à cet homme du Nevada qui deviendrait le premier, un seul cas, compte tenu évidemment du bilan terrible aux États-Unis, de réinfection. Ici au Québec, c'est une préposée aux bénéficiaires de Lanaudière. Elle avait été diagnostiquée positive le 13 avril. Dans ce qu'on peut appeler la vague qui nous a frappé, la vague du printemps, elle est retournée travailler après 2 tests négatifs et évidemment une quarantaine. Et puis, le 17 août dernier, suite à un dépistage, on a noté la présence de la COVID-19. Alors, mais vraiment très exceptionnel.
Oui, et l'autre chose qu'il faut comprendre aussi, c'est que le test détecte le matériel génétique du virus. Ce n'est pas un test qui détecte un virus vivant ou un virus capable d'infecter. OK? Et ça, c'est extrêmement important. Ce que ça dit, c'est que cette personne-là, quand on a fait le quatrième test, pour dire quelque chose, ils ont trouvé du matériel génétique viral dans son organisme. Ça ne veut pas dire qu'elle était contagieuse.
Ouais.
Et ça, c'est important. Et il y a aussi des gens, et ça, encore là, c'est des petites variabilités au niveau du système immunitaire, qui peuvent, à un moment donné, comme établir une espèce de paix avec le virus, où il reste un très petit nombre de virus qui continuent de se répliquer. Et là, est-ce que cette personne-là est vraiment contagieuse ou pas? La question se pose. Est-ce qu'on peut détecter le matériel génétique? Tout à fait. Est-ce qu'elle est contagieuse? Point d'interrogation. Et ça, c'est toutes des subtilités qui, malheureusement, dans un entrefilet de médias, on ne peut pas rentrer là-dessus. C'est un article de 5, 6, 7 pages le tour des récidives de COVID.
Mais je suis content que vous remettiez, comme on dit, les points sur le i. Ce n'est pas une panique, ce n'est pas ce qu'on appelle une nouvelle alarmante. Mais la question, Dr Marquis, c'est qu'il y a encore plusieurs questions, d'ailleurs, qui n'ont pas fait l'objet de réponses, notamment, quand on l'a attrapé, la COVID, on n'arrive pas à cibler quelle est la durée de l'immunité qu'on a après avoir respecté la mise en quarantaine et tout ce que vous voulez, et n'a plus avoir de symptômes, on est immunisé pour combien de temps?
En fait, ça, la seule façon de le savoir avec réalité, ça va être d'attendre. Et parce que les anticorps, on peut les détecter. C'est que la première des choses, on peut détecter le taux d'anticorps. Donc, ça se fait. Mais il faut prendre des prises de sang de façon régulière. Et là, on voit quelle quantité d'anticorps on maintient dans notre sang. Plus le taux est élevé, plus les chances sont qu'on soit protégé pour une longue durée de temps. Et c'est comme ça qu'on a fait pour les vaccins des autres maladies et qu'on sait que certains vaccins ont besoin d'un rappel, d'autres n'ont pas besoin de rappel. C'est à cause de cette immunité-là. Mais pourquoi on le sait? C'est parce que c'est des maladies avec lesquelles on vit depuis des décennies, voire des millénaires. Et la COVID, c'est nouveau. Il n'y a pas de façon vraiment d'accélérer ça. La seule chose qu'ils vont pouvoir faire, c'est des modèles mathématiques de voir les courbes, à quelle vitesse ça descend, et là, de pouvoir dire, bien, écoutez, avec une moyenne d'individus, on s'attend à une protection efficace pour tant d'années pouvant être quelques mois jusqu'à la vie au complet. Mmh. Et on ne peut pas facilement accélérer ce processus-là.
Alors, Dr Marquis, un autre sujet important, parce qu'à tous les jours, on nous annonce le nombre de nouveaux cas confirmés et la remise à jour, évidemment, du nombre de décès. Quand je dis la remise à jour, ça prend tout son sens, parce que des fois, ça ne veut pas dire que la personne, malheureusement, qui figure sur la liste des décès, sur le nombre, est décédée dans les 24 heures. C'est pas comme ça. Des fois, on fait une remise à jour et on dit, on avait 5 cas qu'on doit maintenant ajouter. Est-ce que vous êtes inquiet de voir que hier on a vu une remontée appréciable du nombre de nouveaux cas au Québec, 156?
En fait, c'est pas tant le nombre qui devrait nous inquiéter que de se poser la question où sont-ils? Parce que si c'est 150 cas qui sont disparates dans le Québec, ça veut dire que la COVID est active un peu partout. Ça, c'est quasiment un peu plus inquiétant que 150 cas dans une même municipalité, parce que 150 cas dans une même petite région, ça s'appelle une éclosion, et c'est beaucoup plus facile à contrôler. Fait que je pense que ce qui serait intéressant comme chiffre, mais qui, encore là, ne serait pas nécessairement facile à interpréter, c'est par grandes régions un peu le taux d'attaque dans des régions spécifiques du Québec. Donc, moins d'intérêt, quant à moi, sur le nombre absolu. C'est certain que si on voit un 200, 300, puis qu'on a une tendance, là, ça peut être plus inquiétant. Mais au-delà du chiffre absolu, où sont-ils et à quel point sont-ils concentrés, donne une information qui est différente et, quant à moi, plus intéressante que le nombre absolu.
Mais donc, ça vient renforcer ce que vous venez à peine de dire, Dr Marquis. Attention simplement aux chiffres. On ne doit pas se rabattre. Il y a toujours quelque chose derrière le chiffre en question. Vous l'avez bien expliqué. 156 quand c'est une éclosion et 156 à la grandeur du Québec. Mais le chiffre 156 hier a été présenté un peu partout dans les médias comme étant « Voici la plus forte augmentation depuis un mois ».
Oui, mais elle aurait pu être de deux personnes je comprends là, qu'elle est plus là, que ce qu'on était habitué dans les derniers jours, mais on aurait pu faire le même grand titre avec une augmentation de 2 personnes de plus que les derniers qu'on avait eus.
Mettons.
Donc, méfions-nous des grands titres. Mais en deuxième lieu, ce qui est encore plus important, c'est de se dire, est-ce là une tendance? Si demain ou la prochaine fois qu'on annonce des chiffres pour dire quelque chose, on est revenu à notre chiffre habituel en bas de 100 pour dire quelque chose, on va dire que c'est un blip sur le radar, c'est un épiphénomène, on s'inquiète pas. Si les prochains chiffres vont en augmentant, ben là, notre lumière jaune peut devenir une lumière rouge.
Et
c'est la tendance qui nous intéresse là-dedans. Et encore là, le chiffre pourrait être plus bas, par exemple, disons quelque chose 100, mais que tout d'un coup, on en a 80 dans une ville ou dans un village, et là, ça va être une éclosion dans cet endroit-là, et on se réjouira que le taux global est à la baisse, mais on s'inquiétera et on agira sur la zone qui a eu une explosion de 80 tout d'un coup.
Mais c'est pour ça que l'interprétation de ces données est si importante. Vous êtes capable de le faire, vous le dites ce matin. Attention, voici comment on doit interpréter ces chiffres-là. Parce que vous savez qu'en Europe, il y a des gens qui sont convaincus qu'il y a une seconde vague, en fait les autorités sanitaires, le port du masque obligatoire, même dans les lieux publics, mais il y a beaucoup de gens qui font observer que malgré le nombre de cas qui a augmenté de façon exponentielle en France, avant-hier, 7400 nouveaux cas, le taux de décès, lui, n'a rien à voir avec le taux de décès du printemps dernier.
Bien, il y a deux raisons pour ça. En fait, il y en a probablement plus que deux, là, mais premièrement, les gens qui étaient très, très, très fragiles, bien, c'est plate à dire, mais ils sont partis avec la première vague. Mm-hmm. Donc, les gens qui sont restés en arrière sont globalement peut-être un peu plus résistants. La deuxième chose, c'est qu'on sait que les gens, quand ils décèdent de la COVID, vont rarement décéder dans les premières heures. Ils vont décéder habituellement dans les premiers jours, voire peut-être une semaine ou deux. Donc, eux, ils sont au début d'une deuxième vague. Il est trop tôt pour voir massivement des décès. Rappelons-nous, en Chine, ça a été la même chose au tout début, puis en Europe aussi.
Ouais.
Le troisième élément, c'est que ben, les docteurs, là, on a appris, et notre prise en charge, même entre le début et la fin de la première vague, était complètement différente, avec une meilleure prise en charge globale des patients.
Ouais.
Et la communauté scientifique s'est mobilisée, la communauté médicale s'est mobilisée. Donc, attraper la COVID dans une deuxième vague, ce n'est pas comme attraper la COVID dans une première vague, pour toutes ces raisons-là, et probablement d'autres là, que j'oublie.
Merci beaucoup, Dr. Marquis.
Mais ça me fait plaisir. Je retourne à mes patients.
Oui, ben oui, je vous laisse retourner. Docteur François Marquis, interniste et chef de l'unité des soins intensifs dans l'hôpital Maisonneuve-Rosemont.